Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal de Théo Manval.
La diplomatie, c'est une mission. La politique, c'en est une autre.
Ségolène Royal dans le viseur du Premier ministre et désormais dans celui de la justice. Le parquet national financier a ouvert une enquête sur l'utilisation des fonds alloués à sa mission d'ambassadrice des pôles. Le détail et sa réaction dans un instant. Un nouveau coup au portefeuille des Français, ou plutôt à leur livret d'épargne. Le taux du livret A tombe à 0,5% à partir du mois de février. Explication dès le début de ce journal. À la une aussi ce soir, l'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de manifestation le 24 janvier, alors que dans les transports, le mouvement s'essouffle. Le récit glaçant des victimes du Perprenat au deuxième jour du procès à Lyon.
C'était une industrie, c'est arrivé plusieurs fois comme ça. Il était prêt à faire ça avec d'autres enfants dans la même journée, quoi.
La Chine et les États-Unis qui font une pause dans près de 2 ans de guerre commerciale. Et puis du foot, 3 matchs en retard de Ligue 1 ce soir, dont un alléchant Monaco-PSG, Frédéric Allion.
Et c'est la mi-temps, Théo sifflé sur le score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé à la 24e et Neymar à la 45e sur pénalty.
Merci Frédéric, on vous retrouve dans un quart d'heure à 22h20. L'interview écho d'Emmanuel Duteil. Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera, une plateforme pour se passer de syndic dans les copropriétés. Avant bien sûr la bourse et vos prévisions météo avec Anissa.
Europe 1.
Et on commence donc avec cette nouvelle inattendue et qui ne va pas ravir les 55 millions de Français détenteurs d'un livret A. Son taux de rendement est revu à la baisse. Il passera au 1er février prochain de 0,75 à 0,5%. C'est une première, cette baisse, depuis 5 ans. Et évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, Emmanuel Duteil.
Faire un geste politique ou respecter la réalité de la période économique, c'était vraiment le très grand dilemme de Bercy. Surtout quand, en pleine crise sur les retraites et à l'approche des municipales, baisser le taux de rémunération du livret A peut quand même donner l'impression de s'attaquer un petit peu au pouvoir d'achat des Français. Mais voilà, Bercy s'est voulu pragmatique et il y a à cela plusieurs raisons. Déjà, là, on applique au 1er février une nouvelle formule de calcul. C'était quand même compliqué d'y déroger dès le premier coup, ça ne faisait pas très sérieux. On ne le sait pas toujours, mais le livret A finance aussi la construction de logements sociaux et le garder à des taux qui ne reflètent pas la réalité économique, eh bien ça renchérit tout simplement le coût de construction de ces logements. Et puis à Bercy, on espère que les Français qui voient leurs taux pour leurs emprunts immobiliers à des taux historiquement bas et qui entendent également parler de taux négatifs comprennent tout simplement une telle décision. Mais en tout cas, c'est historique que le taux de rémunération du livret A se retrouve à 0,50%.
Les explications d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire viendra répondre aux questions de Sonia Mabrouk demain matin. Il nous donnera ses justifications. Bruno Le Maire, invité de la matinale d'Europe 1 demain matin à 8h20. Elle était dans le viseur du gouvernement, menacée d'être remerciée de son poste d'ambassadrice des pôles pour ses propos récurrents et pas toujours amènes envers la politique de la majorité. Ségolène Royal est désormais visée par une enquête judiciaire ouverte en novembre dernier par le parquet national financier qui s'interroge, Marion Dubreuil, sur l'utilisation par l'ancienne ministre des fonds qui lui sont alloués pour sa mission d'ambassadrice.
L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, le service qui avait déjà travaillé sur les impôts de Thomas Thévenoud et les notes de taxi de la présidente de l'INA. L'objectif, cette fois-ci, déterminer si Ségolène Royal a utilisé à des fins personnelles les 3 collaborateurs mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice. Des vidéos les montrent à Montpellier, Poitiers, Brest lors de séances dédicaces de son dernier livre ou à des inaugurations en Poitou-Charentes, sans compter ce voyage au Sénégal d'un conseiller pour des projets au profit de sa fondation Désir d'avenir pour la planète. Pour sa défense, Ségolène Royal a expliqué que ses collaborateurs l'accompagnaient sur leur temps libre. Cet après-midi sur Facebook, elle a même assuré que son éditeur avait pris en charge la totalité des frais de promotion de son livre. Mais elle devra bientôt s'expliquer devant les policiers, notamment pour justifier ses dépenses, comme les 1500 euros de frais de voiture avec chauffeur pour le seul mois de novembre 2017.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Ségolène Royal pourrait donc être démise de ses fonctions d'ambassadrice pour les pôles lors du Conseil des ministres la semaine prochaine pour non-respect de son devoir de réserve. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon ce matin.
Un ambassadeur, c'est fait pour faire de la diplomatie. Nous avons donc demandé à Madame Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. Elle fera sans doute valoir ses observations et nous aurons l'occasion de prendre une décision après avoir lu et réfléchi à ses observations. La diplomatie, c'est une mission, la politique, c'en est une autre.
Le Premier ministre Édouard Philippe ce matin, propos recueillis par Jean-Rémy Baudeau. Édouard Philippe qui a aussi appelé à la fin de la grève dans les transports. Grève qui n'a que trop duré, selon lui. Elle a coûté, on l'apprend ce soir, 200 millions d'euros à la RATP et 850 millions à la SNCF. Mais l'intersyndicale ne l'entend pas de cette oreille. En plus de la journée d'action déjà prévue demain, une nouvelle journée de manifestation est annoncée pour le vendredi 24 janvier prochain. Aujourd'hui, plusieurs ports sont restés bloqués. Des fonctionnaires ou des agents de la police scientifique ont manifesté. Mais dans les trains ou les métros, on constate un sérieux mieux. Jean-Jacques Herry, de nombreux conducteurs ont repris le chemin du travail ces derniers jours. Résignés, hein, il faut bien le dire.
Oui, résigné un peu, mais surtout asphyxié financièrement. Un conducteur de métro me confiait tout à l'heure, un mois de grève sans salaire, ça commençait à faire long. Alors il a repris le travail il y a deux jours et d'autres collègues reviendront la semaine prochaine, me disait-il aussi. Ce retour des conducteurs, il ravit évidemment les usagers qui voient déjà la différence très concrètement le matin pour venir travailler comme Maxime.
Clairement, oui, je mettais deux heures avant et aujourd'hui je mets plus qu'une heure globalement, sachant que j'habite à Marne-la-Vallée, donc pour venir ici ça va. RER A jusqu'à Gare de Lyon, métro 14, métro 8 et puis une heure.
Ça vous a fait quoi quand vous avez mis une heure alors que vous étiez habitué à mettre deux heures?
De la joie. Beaucoup de joie et puis c'est tout.
Aujourd'hui, toutes les lignes de métro fonctionnent, alors pas forcément en continu, pas forcément toute la journée, avec des fréquences qui peuvent être très variables, mais en tout cas elles fonctionnent, même si ça n'est pas encore assez pour rassurer les passagers qui franchissent les tourniquets du métro. Philippe, d'ailleurs, porte une trottinette sur l'épaule.
Ça va un petit peu mieux, mais on est obligé des fois, il y a toujours des surprises, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans une station, soi-disant ouverte, et puis à ce moment-là, on vous dit qu'elle est fermée ou elle n'est pas desservie, donc vaut mieux avoir une trottinette sur soi, on ne sait jamais. Enfin, on est content, parce que sur la longue, c'est vrai que ça devenait épuisant, quoi.
Et en discutant avec les voyageurs, quelques-uns m'ont raconté avoir déjà abandonné leur vélo pour revenir dans les transports en commun. Vous voyez, sur les quais du métro, on fait comme si la grève était déjà finie.
Jean-Jacques Herry, aujourd'hui à la SNCF, le taux de grévistes est tombé à moins de 5%. Côté trafic, compté pour demain, 8 TER sur 10, 9 TGV sur 10, les trois quarts des transiliens et la moitié des intercités.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
22h passées de 7 minutes sur Europe 1. À l'étranger, Donald Trump parle d'un accord historique. Le président américain a enterré ce soir l'âge de guerre avec la Chine. Signature en grande pompe d'une trêve dans la guerre commerciale qui sévit depuis près de 2 ans entre les deux pays. Le premier ministre chinois, le vice-premier ministre chinois, est carrément venu de Pékin. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. On parle bien de trêve. Hein. J'ai dit trêve, pas fin de la guerre. Ce qui n'empêche pas Donald Trump de crier victoire.
Et c'est justement ce qu'a fait Donald Trump depuis un salon de la Maison-Blanche devant une rangée de drapeaux américains et chinois. Cérémonie très solennelle et autosatisfaction totale du président. C'est un accord historique, a-t-il triomphé. Ce qu'il y a dans cet accord, c'est en effet ce que demandaient les États-Unis depuis longtemps. Meilleure protection des technologies américaines, plus grande ouverture du marché chinois et la promesse de Pékin de réduire le déficit commercial en achetant pour 200 milliards de dollars de produits américains. Mais attention, ça n'est qu'une trêve. Les tarifs douaniers entre les deux pays restent en place tant qu'un accord plus structurel n'a pas été conclu. C'est d'ailleurs la principale critique contre l'administration Trump. Les taxes affectent des secteurs entiers de l'économie américaine qui continuent à souffrir. Et cet accord intermédiaire ne règle pas les problèmes les plus importants, notamment les subventions de la Chine à son économie. Qu'importe, Donald Trump a besoin d'en faire une victoire politique alors qu'à quelques minutes de la Maison-Blanche, au même moment, au Capitole, les parlementaires étaient en train d'organiser son procès en destitution.
Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et effectivement, les démocrates ont envoyé tout à l'heure l'acte d'accusation contre le président au Sénat, où son procès en destitution va donc pouvoir s'ouvrir en principe la semaine prochaine. Vladimir Poutine propose le patron du fisc russe au poste de Premier ministre. L'intégralité du gouvernement de Russie a démissionné aujourd'hui après un discours du président Poutine qui a annoncé une révision à venir de la Constitution. Elle doit donner plus de pouvoir au Parlement, mais Vladimir Poutine a aussi évoqué un possible changement de l'article qui l'empêche en l'état de se représenter en 2024, ce qui alimente les spéculations sur son avenir. Il est déjà au pouvoir depuis 20 ans à Moscou. Retour en France à 22h09 sur Europe 1 et au volet judiciaire, c'est une journée extrêmement lourde qui s'est déroulée au tribunal correctionnel de Lyon. Deuxième jour du procès de l'ancien prêtre Bernard Prenat, accusé d'agression pédophile sur de nombreux enfants. Aujourd'hui, plusieurs de ses victimes ont parlé, des hommes qui avaient parfois moins de 10 ans à l'époque des faits et qui ont dessiné, Jean-Luc Boujon, le portrait d'un prédateur sexuel.
Oui, c'est vrai, parce qu'en deux jours, on a entendu les témoignages des 10 victimes qui sont parties civiles à ce procès. Cet après-midi, eh bien, on a évoqué le cas de 25 autres victimes dont les cas sont prescrits. Ce n'est donc pas pour ces faits-là que le père Prenas sera jugé, mais cette lecture, cette succession de récits glaçants d'agressions sexuelles, de caresses intimes sur certains enfants, de masturbations sur d'autres, a donné une impression terrible, celle d'un serial prédateur qui agressait à la chaîne. 3 à 4 enfants par semaine, avait admis hier le père Prenas, plutôt 3 à 4 par jour, a corrigé à la barre Stéphane Haro, victime du prêtre à l'âge de 7 ans.
C'était une industrie, il m'est arrivé de croiser un enfant qui sortait de la pièce et moi j'arrivais, donc j'étais le deuxième. Et quand je sortais du petit local derrière l'église, de croiser un autre enfant monté, donc qui lui, pour le coup, était le deuxième. C'est arrivé plusieurs fois comme ça. Il était prêt à faire ça avec d'autres enfants dans la même journée, quoi.
Voilà, face à lui, le père Prenas répète ses excuses, demande un nouveau pardon, mais il n'oublie pas au passage d'égratigner l'église, coupable à ses yeux de l'avoir laissé agir. Il explique: très vite, on s'est rendu compte que j'étais attiré par les petits garçons. On m'a dit que j'étais malade ou anormal. J'aurais bien aimé à la place qu'on me donne les clés pour m'en sortir et me soigner. Le père Prenas, qui se met alors à raconter d'une voix faible les abus dont lui-même aurait été victime dans son enfance de la part d'un prêtre, puis d'un séminariste. « Je ne l'ai jamais raconté à personne, dit-il, sans qu'on sache si c'est la vérité ou une simple stratégie de défense. »
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. La centrale nucléaire de Fessenheim, plus vieille centrale française, sera bien mise à l'arrêt au printemps. Confirmation ce matin du Premier ministre. Son premier réacteur sera arrêté le 22 février prochain et le second au mois de juin. Attention, ça y est, l'épidémie de grippe sévit dans deux régions. Seuil d'épidémie dépassé en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça devrait bientôt être le cas ailleurs, hein, puisque toutes les autres régions sont en seuil pré-épidémiologique, selon Santé publique France. Parmi les cas les plus graves, 11 personnes sont déjà mortes de la grippe dans nos hôpitaux depuis le mois de novembre.
Europe 1, Théo Manval.
Allez, on prend maintenant la direction de l'Alpe d'Huez, où se tient en ce moment le Festival de la Comédie, c'est du cinéma. Mathieu Charrier, vous sortez de la projection du film Forte, qui a été présenté ce soir. Une comédie qui vous a beaucoup plu et dans laquelle on retrouvera Valérie Lemercier.
Forte est le premier film écrit par Mela Bedia, la sœur de Ramzi, du duo d'Eric et Ramzi. Elle y raconte son histoire sans complexe, avec un personnage principal qu'elle incarne également, qui se prénomme Nour, jeune fille qui a 20 kilos de trop, un bonnet en guise de coupe de cheveux et puis un jogging comme tenue de tous les jours. Alors évidemment, avec les garçons, ce n'est pas la fête. Et quand elle découvre que la nouvelle copine de son ex est experte en pole dance, elle décide de s'y mettre, elle aussi, malgré ses kilos, et avec une prof hyper bienveillante, jouée par Valérie Lemercier. Sa meilleure amie, c'est Alison Wheeler, et je peux vous dire que ça donne une comédie très tendre sur ce mal-être des jeunes femmes, notamment quand elles sont en surpoids, sur le poids justement de la société. C'est bien joué, c'est bien réalisé, c'est drôle, c'est sociétal, bref, une comédie comme on les aime et qu'on aime découvrir ici au Festival de l'Alpe d'Huez. Forte sortira le 18 mars, il a été très longuement applaudi par les 1300 festivaliers.
Merci beaucoup Mathieu Charrier depuis le Festival de la Comédie à l'Alpe d'Huez pour Europe 1. Enfin, il y a du football ce soir, 3 matchs en retard du championnat de Ligue 1. Rennes est allé battre Nîmes sur sa pelouse 1-0. Match nul tout à l'heure entre Amiens et Reims, un but partout. Et en ce moment se joue donc la deuxième manche de l'opposition entre Monaco et le Paris Saint-Germain après une première confrontation prolifique dimanche dernier. Frédéric Elion, vous êtes au stade Louis II. Où en est-on après 51 minutes de jeu?
Il y a des buts toujours Théo, mais il n'y en a que pour une équipe ce soir, c'est pour le Paris Saint-Germain qui donc pour l'instant mène cet épisode 2 de la double confrontation entre les deux équipes grâce à ces deux stars, hein, Kylian Mbappé et Neymar, l'international français qui a ouvert le score à la 24e minute, lancé à la limite du hors-jeu. Il est venu tromper du pied droit Benjamin Lecomte, c'était à la 24e, et puis après dans le temps additionnel, débordement de Leivin Kurzawa, le latéral gauche parisien ce soir dans la surface de réparation, contact avec Camille Glick et l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty, Neymar, qui transforme donc ce pénalty. 2-0, c'était le score à la mi-temps. C'est toujours le score actuellement. Monaco joue plutôt pas mal, hein. Ils ont eu pas mal de bonnes situations. Deux énormes arrêts de Keylor Navas, notamment face à Jelson Martins à la 28e. Météo pour l'instant, Paris est en contrôle et on va dire qu'il mène logiquement les Parisiens. 2-0 ici au Stade Louis II. Il reste encore une grosse demi-heure à jouer.
Merci beaucoup Frédéric Elion et on vous retrouvera juste avant 22h30 tout à l'heure. Rennes réalise en tout cas une bonne opération aujourd'hui en creusant un petit peu plus l'écart. 4 points séparent désormais le 3e du championnat de Nantes qui est 4e. À 22h14 sur Europe 1, on fait un point sur la météo de demain avec vous Anissa, et c'est pas folichon puisqu'une nouvelle perturbation arrive sur le pays.
C'est ça exactement, hein, Théo, avec une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest demain encore, hein, par la pointe bretonne. Une perturbation qui se renforce dans l'après-midi avec des pluies assez soutenues en Bretagne et du vent du sud jusqu'à 110 km/h sur les côtes, 80 km/h sur les terres. En Normandie, sur le Cotentin, sur les Pays de la Loire, là, le vent souffle également demain. À l'avant de cette perturbation, eh bien, sachez que toute la moitié nord sera sous les nuages demain, comme le long de la Méditerranée. Là, le ciel est très couvert le matin, un petit peu plus dégagé dans l'après-midi. Partout ailleurs, du sud-ouest jusqu'à l'Alsace, en passant par les Alpes, la Corse, les Pays de la Loire, la région parisienne, les Ardennes, le Nivernais, le Val-de-Saône, eh bien là, c'est le soleil qui domine toute la journée. Les températures, elles sont douces pour un mois de janvier, 3 à 6 degrés demain matin jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, nous aurons 11 à Aurillac, 13 à Caen, Nancy et Belfort, 14 pour Paris, 15 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 18 degrés à Biarritz.
Prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, une courte pause et on fait le point sur les places financières avant l'interview éco d'Emmanuel Duteil. Vous en avez marre de votre syndic? Et si vous passiez par une plateforme? Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera, est avec nous dans un instant. A tout de suite. Et à 22h18 sur Europe 1, on fait un point sur la bourse. Avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
L'accord commercial entre les États-Unis et la Chine est enfin signé et conséquence, Wall Street monte ce soir.
Oui, c'est fait. Après plus de 18 mois de guerre commerciale, la première phase de l'accord a été signée ce soir à Washington. Une signature qui avait été largement anticipée par les marchés, mais le Dow Jones gagne encore un peu de terrain. Plus 0,32% à 29 032 points, c'est un nouveau record. Plus 0,08% pour le Nasdaq à 9 259 points. Le texte prévoit à la baisse de certains droits de douane et la Chine s'engage de son côté à acheter davantage de biens et de services américains. Du côté des valeurs, ce soir à Wall Street, les derniers résultats financiers trimestriels sont plutôt mal accueillis. C'est du rouge pour la banque Goldman Sachs, du rouge aussi pour Bank of America. Le titre recule de 1,8%. Et puis l'enseigne de distribution américaine Target souffre de la concurrence du géant du e-commerce Amazon. Le titre plonge de 6,6%. Du côté des devises, l'euro avance de 0,21% et s'échange contre 1,1151$.
La journée s'est terminée en petite baisse par contre à Paris.
Oui, le marché parisien a clôturé avant la signature de l'accord commercial entre la Chine et Washington, d'où une certaine prudence. Le CAC 40 perd 0,14% à 6033 points. Les valeurs financières figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40. AXA lâche par exemple 2%, suivi de BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Et Total a dévoilé ses principaux indicateurs du quatrième trimestre 2019. La marge de raffinage est sous pression et c'est donc une sanction pour le groupe pétrolier qui perd 1,2%.
L'Oréal évolue au plus haut niveau historique.
Oui, le Crédit Suisse a revalorisé le titre de 234 à 240 euros. L'Oréal en profite pour gagner plus de 2% ce soir. Le numéro 1 mondial de la cosmétique dévoilera ses résultats annuels le 6 février. Safran, de son côté, est dopé par une note d'analyste, gain de 1,2% ce soir pour l'équipementier aéronautique. Ailleurs en Europe, les marchés ont clôturé en ordre dispersé. À Londres, le FTSE avance de 0,3%, moins 0,2% pour Francfort et pour Madrid. Bruxelles perd 0,5%, moins 0,7% pour Milan. Amsterdam gagne 0,1% et à Paris, le CAC 40, lui, perd 0,1% à 6033 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de Boursier.com. À 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview éco avec vous Emmanuel Duteil et avec vous ce soir Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera, plateforme en ligne pour se passer de syndic dans les copropriétés. Bonsoir à vous.
Bonsoir Raphaël Di Meglio.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Matera. Alors Matera, ce n'est pas très connu. Hein. C'est une plateforme qui regroupe tous les outils nécessaires à la bonne gestion d'un immeuble. Vous venez aujourd'hui de lever 10 millions d'euros, ce qui est énorme hein, pour réussir à vous développer. Alors vous n'êtes pas un syndic en tant que tel, mais vous aidez tous ceux qui ont décidé de monter un syndic autonome, souvent pour leur petite copropriété. Vous vous êtes lancé parce que vous êtes dit quoi ? Que le pire des métiers, c'était de syndic ?
Alors, on s'est lancé sur ce modèle-là parce qu'en effet, on avait interviewé des copropriétaires, des associations de copropriétaires et des syndics traditionnels avant de se lancer. Et les copropriétaires nous disaient « j'en ai marre de mon syndic » et les syndics nous disaient « j'en ai un peu marre de mon métier, j'en ai marre d'aller en assemblée générale et de me faire découper ». Et du coup, on s'est dit « on va regarder ce qu'il y a dans la loi ». La loi dit « on a le droit de monter un syndic coopératif ».
Donc syndicat autonome, hein, c'est la même chose. Hein, c'est...
Exactement, c'est le conseil syndical qui a le plus de pouvoir pour gérer directement la copropriété. Et tout le monde nous a dit que ce modèle est génial, mais ça peut prendre du temps et ça peut être complexe.
Donc là, ce que vous apportez, vous, finalement, c'est à tous ces gens qui décident de gérer eux-mêmes et de façon autonome leur copropriété, c'est tous les outils. C'est-à-dire que vous gérez pour eux les contrats avec l'entreprise de ménage, avec le plombier, etc., etc. C'est ça l'idée ?
C'est exactement ça. À la base, on s'est beaucoup concentré sur des fonctionnalités métiers, qui vont être de l'administratif et du comptable. Et désormais, on se concentre beaucoup plus sur des choses opérationnelles dont vous parliez, des contrats pour l'assurance, des contrats de ménage, etc. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les gens pour pas que ça leur prenne de temps et pas que ce soit complexe pour eux.
Oui, puisque la grande difficulté ou ce qui bloquait à ce que beaucoup de copropriétés se lancent en syndic autonome ou collaboratif, c'est la charge de travail à côté. Que ça a beau être un syndic autogéré, il faut respecter la loi.
C'est exactement ça. Ce qui faisait peur aux gens, c'est que c'est vrai qu'il y a eu de l'inflation législative, donc c'est de plus en plus complexe. Et d'autre part, ça peut prendre du temps. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ça ne leur prenne pas de temps et ce ne soit pas complexe. Et donc, si vous voulez, toute notre plateforme a été pensée de manière très intuitive pour que quelqu'un qui n'y connaisse rien en comptabilité, qui n'y connaisse rien en juridique, puisse le faire directement pour sa copropriété.
Qui sont aujourd'hui vos clients ? C'est plutôt les petits immeubles, parce que c'est eux quand même qui, la plupart du temps, se lancent en syndic collaboratif.
Alors, historiquement, c'est vrai. En revanche, aujourd'hui, c'est un combat, nous, qu'on mène pour montrer que ça marche sur des immeubles de plus grande taille. Donc, on a des copropriétés aujourd'hui qui vont jusqu'à 250 appartements. Donc, on a des grosses copropriétés un peu partout en France aujourd'hui.
Alors, à quoi ça va servir cette levée de fonds de 10 millions d'euros ? Justement, à développer de nouveaux services, vous parliez de l'assurance, vous ne le faites pas encore, vous êtes en train là de le développer, ça va vous permettre à être véritablement un gros concurrent des syndics.
Absolument, oui. L'idée, c'est vraiment de couvrir toutes les missions qu'il y a pour bien gérer une copropriété. Et donc là, on vient de lancer l'assurance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a négocié avec un assureur historique qui s'appelle La Parisienne un contrat d'assurance multirisque pour toutes nos copropriétés. Donc on va proposer des devis à nos copropriétés. Et l'enjeu pour nous, c'était de regarder qu'est-ce qui cloche le plus dans les contrats actuels. Et le sinistre le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle un dégât des eaux. Et donc nous, on a négocié avec La Parisienne qu'il n'y ait aucune franchise pour le dégât des eaux dans les copropriétés. Et donc aujourd'hui, les copropriétaires, quand ils se connectent sur leur accès Matera, ils peuvent obtenir directement un devis en mettant 2-3 critères, la surface de l'immeuble et le nombre d'étages, et ils vont obtenir un devis directement pour leur assurance multirisque.
Ce que vous apportez aussi, et c'est là-dessus que vous avez beaucoup surfé au démarrage, c'est la transparence. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'on ne comprend jamais avec notre syndic, c'est de savoir pourquoi notre contrat d'ascenseur augmente de façon exponentielle chaque année alors que l'inflation n'augmente pas et qu'il n'y a pas eu obligatoirement plus d'incidents sur l'ascenseur. Vous, vous vous engagez à la transparence et à négocier les prix.
C'est absolument ça. Il y a un grand garde-fou qu'on a toujours mis, nous, pour notre modèle et qui fait qu'on ne reproduira jamais les mêmes erreurs. C'est que, si vous voulez, on n'est pas décisionnaire à la place de la copropriété. Dans un modèle traditionnel, on va avoir un gestionnaire et c'est lui qui peut contracter au nom de la copropriété. Nous, c'est le conseil syndical directement qui peut contracter et on ne peut pas contracter pour la copropriété. Donc, on pourra toujours pousser des devis, on ne choisira pas. Quel contrat ou quel prestataire passera dans la copropriété.
Vous êtes là pour faire des propositions et des suggestions.
Exactement. Et on considère que vraiment le nerf de la guerre, c'est permettre aux gens de décider directement sans avoir à dépendre d'un intermédiaire.
Est-ce que vous pourriez un jour vous lancer et demander les autorisations pour être un vrai syndic ? Puisque vous dites que vous avez regardé tout ce qui n'allait pas du côté des syndics, donc ce serait facile d'arriver et de dire maintenant, c'est bon, on peut faire tout le métier.
Franchement, on pourrait avoir les autorisations très facilement, mais ce n'est pas du tout notre conviction. En fait, on considère qu'avoir un gestionnaire qui va gérer 40 immeubles, c'est avoir une mauvaise qualité de gestion. Nous, on considère qu'il faut donner les outils et les conseils nécessaires à un conseil syndical pour qu'il puisse le gérer directement. Il vaut mieux avoir 2-3 personnes au conseil syndical qui décident directement plutôt que de dépendre d'un gestionnaire qui a 40 autres immeubles à gérer.
Mais dans tous les immeubles, il n'y a pas 2-3 personnes qui ont malgré tout le courage de s'investir pour gérer la copropriété pour les autres. Que vous avez beau les aider, ça leur demande quand même du temps.
Et détrompez-vous, que vous soyez avec un syndic traditionnel ou avec Matera, vous êtes obligé d'élire en assemblée générale un conseil syndical. Le modèle, si vous voulez, économique des syndics actuellement veut qu'ils fassent beaucoup de volume et du coup qu'ils se déchargent beaucoup sur le conseil syndical. Et ce qu'on constate, nous, c'est que les conseillers syndicaux, ils viennent nous voir en nous disant on fait déjà une bonne partie du travail du syndic, mais on n'a pas accès aux prestataires et on n'a pas accès à la transparence qu'on voudrait. Pourquoi est-ce qu'on continue à payer des honoraires chers alors que c'est nous qui faisons le travail dans les copropriétés ? Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut renverser ce modèle-là, permettre au conseil syndical de décider directement sans avoir à dépendre de l'intermédiaire externe.
Alors justement, c'est la question que je suis sûr que beaucoup d'auditeurs sont en train de se poser. Ça leur coûte combien et ça nous coûte combien quand on fait appel à vous, puisque vous n'êtes pas non plus un philanthrope, hein,
Ah non, absolument pas. Le but, c'est de créer un modèle économique qui est pérenne et qui va pouvoir convaincre le plus grand nombre de copropriétés possible. Ça coûte 8 euros par appartement par mois. L'idée, c'est de se... Là aussi, se positionner un
peu
en opposition.
Fixe, quelle que soit la taille de la copropriété, au genre de choses.
Exactement. Et l'idée, c'est de ne plus facturer de frais exceptionnels. Franchement, ils nous disent tous, les copropriétaires, j'en ai marre de payer 500 euros pour un état daté quand je vends mon appartement. J'en ai marre qu'on facture des vacations horaires. J'en ai marre qu'on facture tel prix, etc.
Est-ce que les syndics traditionnels vous ont mis des bâtons dans les roues au démarrage? Parce que, par exemple, vous parlez des états datés, c'est ce dont on a besoin absolument d'avoir pour vendre, par exemple, notre appartement. C'est généralement le document qui manque quand on arrive le jour J devant le notaire.
Absolument, ouais.
Ils vous ont mis des bâtons dans les roues?
Franchement, ils ne sont pas particulièrement hostiles pour l'instant.
Eh bien, un grand merci Raphaël Di Meglio d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Matera. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Et on retrouve votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens demain matin, les créations d'entreprises à un sommet historique. Une bonne nouvelle sur la santé de l'économie française à la une des Échos. Selon l'INSEE, 815 000 entreprises ont été créées l'an passé en France. C'est un record que l'on doit notamment au développement toujours aussi important du statut de micro-entrepreneur. Pas toujours reluisant, mais tous les types de créations d'entreprises sont en hausse, pas que les plus petites donc, c'est à lire dans les Échos. Le Figaro, quant à lui, consacre sa une aux retraites. L'exécutif mise sur la fin de la contestation. Alors que la mobilisation faiblit, nous dit le Figaro, au 43e jour de grève, Emmanuel Macron veut passer à autre chose. Et il charge son Premier ministre de nouveaux dossiers, l'écologie, la lutte contre le communautarisme. On sent peut-être que les municipales arrivent. En tout cas, les syndicats ont appelé ce soir à une nouvelle journée de manifestation le 24 janvier prochain. Et à ce sujet, RATP, SNCF, deux grèves, deux ambiances. Ça s'est à retrouver dans l'Opinion, qui s'est penché sur les chiffres. 4,7% de grévistes ce mercredi à la SNCF seulement. L'effilochement se poursuit, ce qui n'est pas le cas sur les rails du métro, où l'on estime ce taux toujours autour de 12%. Et près de 6 conducteurs du métro et TER sur 10 seraient toujours en débrayage. Ce qui met en lumière, explique l'Opinion, deux cultures d'entreprise et deux cultures du dialogue social très différentes. Mais surtout deux stades d'avancement bien différents, là aussi, dans la préparation de l'avenir et l'arrivée de la concurrence. Libération s'affiche de son côté à l'heure américaine avec la primaire démocrate qui se joue en ce moment outre-Atlantique. Qui pour sortir Trump, s'interroge Libé, qui passe en revue les prétendants d'Elizabeth Warren à Joe Biden en passant par Pete Buttigieg avec cette chance sentence. Chez tous ceux qui veulent battre Trump, plus que jamais le vote utile s'impose, quel qu'il soit. Enfin, la Croix s'interroge sur les manières de renouer la confiance entre les Français et leurs médias. Selon le 33e baromètre du genre réalisé par le journal avec l'Institut de sondage Kantar, l'intérêt pour les Français, des Français pour l'actualité n'a jamais été aussi bas. Alors comment, en ces temps de doute, réveiller la curiosité des citoyens pour l'actualité? Ça s'adresse certainement autant à nous, journalistes radio, qu'à vous, chers auditeurs, qu'on est ravis de servir chaque jour. Et c'est donc à lire, ce sera passionnant sans nul doute, dans le journal La Croix de demain. À 22h30, on fait un dernier détour par le stade Louis II, Monaco PSG, Frédéric et Lyon, où en est-on?
Vous n'avez rien manqué, Théo. 69 minutes de jeu, le score n'a pas bougé, toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un score acquis à la pause, hein. Déjà ouverture du score. Kylian Mbappé à la 24e minute, l'international français lancé en profondeur est venu tromper Benjamin Lecomte. Un but que l'arbitre a mis du temps à valider puisqu'on a eu la fameuse intervention de l'arbitrage vidéo. Ça a pris 3-4 minutes sur le terrain. Ça casse toujours un petit peu le rythme, mais toujours est-il que le but a été validé. Et puis ensuite, dans le temps additionnel, à la 45e, c'est Neymar qui a transformé un pénalty suite à une faute de Kamil Glick dans la surface de réparation. Sur un débordement du latéral gauche parisien, Levin Kurzawa. Les Monégasques ont eu des occasions, notamment la dernière en date, c'était il y a 3 minutes de cela, par Keita Baldé dans la surface de réparation. Une frappe du pied gauche qu'a sorti Navas, qui a été impérial pour l'instant ce soir, le portier parisien, qui a fait vraiment 3-4 gros arrêts décisifs. Et en face, son homologue monégasque, lui aussi, Benjamin Lecomte, a sorti des beaux arrêts, notamment face à Neymar en première période, 70 minutes Théo. Et donc pour l'instant, ce acte 2 entre les deux équipes, entre Monaco et Paris, eh bien, tourne à l'avantage du Paris Saint-Germain. Il reste 20 minutes.
Merci beaucoup Frédéric et Lyon. 22h passées de 31 minutes sur Europe 1. La libre antenne s'installe avec Olivier Delacroix jusqu'à 1h du matin. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo. Et j'espère que vous allez bien, mais quand je vous pose la question tous les soirs, vous allez bien, donc est-ce que je vous la repose ce soir ?
Alors, je vais particulièrement bien, puisque le PSG mène 2-0, vous
c'est
savez.
Vrai, vous êtes fan du PSG, fan de foot.
Exactement.
Et on est fan de vous et de la Libre Antenne qui s'installe donc jusqu'à 1h.
Merci Théo, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.